La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux.
Il n'y a pas d'édito enflammé sur le communautarisme blanc.
De sujets moins sérieux.
Ça peut être des bois sculptés à partir de formes naturelles interprétées.
De ce qui se passe en Île-de-France.
Je me disais qu'à Paris, on était en avance sur la province.
Et de débats pas forcément consensuels.
Parlez-nous un peu de cette coupe menstruelle.
Tous les jours, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur le 93.9.
Pour ma première sur Radio Campus Paris, j'ai tout d'abord hésité à faire un édito à la Pascal Pro. Mais quand je vois la composition de ce plateau, je vois bien que j'ai bien fait de me retenir. Plus sérieusement, pour éviter le syndrome de la page blanche, j'ai préféré m'inspirer de l'actualité. Et à ma grande surprise, on trouve à la une des sites web d'information, principalement de l'actualité internationale. Même sur celui de CNews, on ne parle que de l'Algérie. Vraiment, je vous invite à aller voir, ils font une fixette. Bref, cette passion des médias mainstream pour l'actualité internationale ne traduit pas une ouverture au monde, mais plutôt que le monde va mal. Ou du moins, plus mal que d'habitude. Surtout que cela s'accompagne désormais de tout un vocabulaire. Réarmement, défense, guerre. Comme une petite musique qu'on essaie de nous mettre en tête pour nous faire supporter de nouvelles mesures d'austérité. Car vous savez, l'effort de guerre. Mais aussi, et peut-être surtout, il semblerait qu'on nous prépare à autre chose. Je vois disserter les va-t-en-guerre de salons et autres plateaux de télévision, bourgeois et militaires à la retraite, ceux-là qui n'hésiteront pas à envoyer d'autres que mourir au combat. J'écoute sagement parler notre cher président avec ses yeux graves et accompagné de tout plein de chiffres et de graphiques. Lui qui parle de réarmement à tout va, qui ne lâchera jamais son SNU et qui adore exalter notre prétendu amour de la patrie. Je ne dis pas que je n'irai pas combattre si d'horribles fascistes menaçaient nos frontières, mais je dis bien qu'il faut se méfier de quelque chose avec la guerre. La guerre, c'est celle des puissants, c'est celle de l'argent. La guerre, ça permet un virage autoritaire. La guerre, ça relance une industrie mortifère, ça enrichit les Dassault. La guerre, ça renforce le sentiment patriotique, si ce n'est nationaliste, et on sait tous à quoi cela nous mène. Et tout simplement, la guerre, c'est celle des massacres. C'est celle où de pauvres gens sont envoyés par d'autres pour s'entretuer. Je sais que la situation est confuse, que plus personne n'y comprend rien, mais je souhaiterais juste ajouter à ce vocabulaire un mot qui me semble occulté, c'est celui de la paix. Pour conclure, j'aimerais vous rappeler que nos aînés, les boomers qui votent Macron, qui voudraient nous envoyer, nous les jeunes, au combat, dans le style « il leur faudrait une bonne guerre », ce sont les mêmes qui ont connu l'une des plus longues périodes de paix de l'histoire récente et qui pour l'écrasante majorité d'entre eux n'ont jamais combattu. Alors, n'oubliez jamais de leur rappeler que la guerre, c'est comme Tintin. C'est pour les jeunes de 7 à 77 ans. Au sommaire de cette matinale de 19h du jeudi fin février 2025, un zoom sur le festival Hors Limite en Seine-Saint-Denis. Éléonore reçoit pour en parler Arnaud Bertina, conseiller littéraire du festival. Avant ça, Fabien nous proposera une chronique actu avant la conclusion de l'émission avec la chronique de Delila. Pour l'interview, Delila encore recevra Benjamin Alès de l'INRAE. Mais tout d'abord, le Flash Info.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Bonjour à toutes et à tous. La ministre de la Culture, Rachida Dati, a déposé une nouvelle requête dans l'information judiciaire qui la vise à Paris. Elle demande la nullité du réquisitoire du parquet national financier sur les accusations de corruption et de trafic d'influence aux côtés de Carlos Ghosn. La ministre est soupçonnée par les enquêteurs d'avoir perçu 900 000 euros entre 2010 et 2012 pour des prestations de conseil auprès de RNBV, filiale de l'alliance Renault-Nissan. Les deux mis en cause contestent les accusations dans un dossier judiciaire instruit aux lourds enjeux politiques. Les investigations cherchent aussi à savoir si ces prestations auraient pu servir à masquer une activité de lobbying au Parlement européen, activité interdite à tout élu. On passe à l'international. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a affirmé jeudi que tout accord de paix en Ukraine devrait être défendu face à la Russie. Il avait jusqu'à présent rejeté la présence de troupes occidentales au territoire ukrainien. Le chef du gouvernement a déclaré sur Sky News que sans garantie de sécurité pour l'Ukraine, la Russie pourrait rompre ses engagements. Il s'est ensuite adressé dans l'après-midi au chef d'état-major d'une trentaine de pays alliés de Kiev à Londres. Les États-Unis de Donald Trump qui lorgnent aussi sur les minerais rares ukrainiens. Des délégations ukrainiennes et américaines se rencontreront lundi en Arabie Saoudite. Le pays moyen-oriental accueillera le même jour des pourparlers russo-américains. Volodymyr Zelensky considère aujourd'hui que la Russie frappe toujours les infrastructures, que rien n'a changé selon lui. Lors d'un entretien vidéo avec les 27 réunis à Bruxelles aujourd'hui, le président ukrainien a demandé à ce que les sanctions contre Moscou restent en place, et ce jusqu'au début du retrait russe du territoire ukrainien et jusqu'à ce que la Russie compense entièrement les dégâts causés par son agression. Et puis aux États-Unis, les turbulences de l'économie américaine se stabilisent. Après un début de mandat tumultueux pour Donald Trump, la Réserve fédérale prévoit un ralentissement et non plus un effondrement de l'économie américaine. La Fed a laissé ses taux d'intérêt inchangés et a revu sa prévision de croissance à la baisse pour 2025. Elle passe donc à 1,7% contre 2,1% l'année dernière. Elle table désormais sur une inflation de 2,7% cette année, en légère hausse. Mais ce rebond risque d'être de courte durée car l'institution prévoit encore une hausse des prix en 2026 et 2027. Et puis économie maintenant, le géant français du jeu vidéo Ubisoft sort son plus gros projet Assassin's Creed Shadow aujourd'hui. Une sortie très attendue. L'industrie du jeu de vidéo retient son souffle. En cas d'échec, c'est l'avenir de l'entreprise et la stabilité du secteur en Europe qui sera menacée. Les joueurs espèrent aussi que le titre permettra de redonner un nouvel élan à la licence. Et puis pour finir, football, le match en retard de Liga contre le FC Barcelone et Osasuna se jouera bien le 27 mars. La Fédération espagnole de football a annoncé sa tenue malgré l'opposition des deux clubs. Le Barça, leader du championnat espagnol, sera en effet privé de ses deux internationaux sud-américains, Rafinha et Ronald Araújo. Quant à Osasuna, le club avait un autre match déjà prévu le 28 mars face à son voisin l'Athletic Bilbao qui se jouera le 30 mars pour permettre à Osasuna d'avoir un temps de récupération suffisant. Bonne journée à tous.
Merci Thomas pour ce flash info et il est temps de marquer une pause musicale avec Inmansita d'Andrea Laszlo de Simone.
Yeah.
C'était Immensita d'Andrea Laszlo De Simone. Il est 19h10 sur Radio Campus Paris et tout de suite, c'est le moment de l'inviter.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Une enquête de l'ANSES révèle que suivre un régime végétarien diminue le risque de développer un diabète de type 2, mais aussi de cancer et de maladies gastro-intestinales. On en parle tout de suite dans la matinale de 19h aux côtés de Benjamin Alès, épidémiologiste à l'INRAE. Bonsoir Benjamin.
Bonsoir.
À mes côtés, pour mener cet entretien, on accueille Delila de la rédaction de Radio Campus Paris. Excusez-moi. Salut Delila.
Bonsoir Simon. Benjamin, vous nous venez donc de l'INRAE et on vous reçoit donc pour parler de l'étude sur les régimes végétariens publiée par l'ANSES. Donc comme ça fait beaucoup de sigles, est-ce que vous pourriez replacer un peu l'ANSES et l'INRAE pour nos auditeurs et auditrices?
Alors du coup, l'ANSES, c'est l'Agence Nationale de Sécurité pour tout ce qui est aliments. Donc, c'est l'agence qui contrôle en particulier du coup, la qualité des aliments pour pas que la population soit à risque justement d'avoir des problèmes de santé, à la fois des risques sanitaires directs comme par exemple simplement les bactéries, etc. Mais aussi les contaminants et aussi à plus long terme pour la santé de manière générale. L'INRAE, c'est l'Institut National de la Recherche en Agronomie, Alimentation et Environnement. Donc, c'est un des plus gros instituts de recherche européens sur tout ce qui est agriculture, alimentation. Et dans l'INRAE, il y a donc énormément de chercheurs qui travaillent sur énormément d'aspects de l'alimentation, de l'environnement, etc. Et il y a en particulier une branche qui est l'alimentation humaine, qui représente donc un département de recherche dans lequel moi je suis. Voilà.
Et pour en venir à l'étude en elle-même, est-ce que vous pourriez nous la résumer un petit peu les enjeux?
Alors du coup, les enjeux, c'est que en fait, justement, on a la population végétarienne et végane. Déjà, il y a très peu de recommandations qui existent vraiment quantitatives sur le plan international déjà. Donc, il y en a quand même des pays qui s'étaient lancés avant nous. Par exemple, les États-Unis avaient déjà émis donc dans leurs recommandations depuis les années même fin 2010, avaient mis donc des recommandations en faveur du régime végétarien pour maintenir une bonne santé. Et c'est vrai que la France, on était un peu du coup encore un peu en retard, on va dire, sur cette thématique. Et c'est pour ça que l'ANSES, en fait, s'est auto-saisi. Donc, ils ont, eux, ils surveillent régulièrement justement qu'est-ce qui manque dans les recommandations nutritionnelles, notamment sur des populations spécifiques. Donc, ils sont auto-saisis pour pallier ce manque et du coup fournir du coup des repères déjà alimentaires pour les personnes végétariennes. Mais en même temps qu'on fournit ces repères, on voulait aussi vérifier que les régimes végétariens, puisque l'ANSES fait donc, je l'ai dit, la surveillance pour vérifier que l'alimentation permet de nous maintenir en bonne santé. Donc, on voulait vérifier que ces régimes-là peuvent aussi permettre d'être en bonne santé et éventuellement les limites, parce qu'il y a des limites nutritionnelles associées à ces régimes, si elles n'étaient pas trop graves et si quand même on pouvait faire des recommandations. C'était un des objectifs.
Établir un vrai référentiel scientifique. Donc.
Exactement.
Comment on prépare une telle étude? Il y a une méthodologie adoptée qui est très précise, j'imagine.
Oui, il y a une méthodologie très précise qui est du coup qui a été développée depuis maintenant. L'ANSES, ça fait des décennies qui produisent des rapports de ce type-là. Et c'est vrai que plus particulièrement depuis, on va dire, les 15-20 dernières années, surtout depuis encore plus depuis 2010. Pour être très précis, ils ont peaufiné leur méthodologie pour affiner les repères alimentaires qu'on donne aux Françaises et aux Français. Donc il y a des repères qui existent déjà depuis donc 2017 pour la population adulte générale en bonne santé qui ont été faits par l'ANSES, mais aussi pour des populations spécifiques comme les femmes enceintes par exemple, pour ne citer que cette population. Bien sûr, il y en a plein d'autres. Et du coup, donc en fait, tout ça c'est fait donc avec une méthodologie rigoureuse. On va réunir des comités d'experts. Ces comités d'experts doivent couvrir plein de disciplines, de l'épidémiologie jusqu'à même la clinique, ce qui a aussi bien sûr des impacts directs sur la santé qui peuvent. Donc on a besoin aussi de médecins tout simplement pour avoir aussi un avis médical, mais aussi des gens qui travaillent sur, par exemple des diététiciennes qui travaillent sur la composition nutritionnelle des aliments. Donc à l'ANSES, ils ont déjà des experts en interne là-dessus. Donc voilà, il y a vraiment tout un groupe d'experts à la fois de l'ANSES et aussi extérieur à l'ANSES qui se réunit pour ces groupes-là avec une méthodologie très précise d'études où on va décortiquer chaque étude, vérifier si l'étude nous paraît correcte d'un point de vue scientifique, puisque malheureusement il y a aussi des études, il faut bien vérifier la qualité des études scientifiques avant de les intégrer dans une telle expertise. Donc en fait, il y a un énorme travail qui est fait déjà là-dessus. En fait, c'est un peu comme un iceberg. Ce que vous voyez là, le rapport et ce qui est sur le site de l'ANSES, c'est un peu la pointe de l'iceberg. Mais en dessous, vous avez tout un tas d'études et de données qui ont été intégrées pour pouvoir arriver à faire ces recommandations.
Et du coup, c'est un peu quels grands axes vous dégagez du coup de ces deux expertises, parce que l'étude est divisée en deux expertises, je crois.
Le premier axe, donc, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, c'est vraiment pour déjà vérifier dans la littérature scientifique que les régimes végétariens et véganes sont, s'ils sont vraiment favorables, en tout cas à la santé. Donc ça, c'était vraiment le premier travail qu'on a fait en amont avant de proposer du coup des recommandations pour vérifier ça. Et donc du coup, ce premier axe a permis de dégager donc des niveaux de risque, notamment une diminution du risque, par exemple, de certains cancers, des maladies digestives, ce qu'on a rappelé tout à l'heure en introduction. Donc ça, c'était vraiment le premier travail. Donc il faut savoir que pour ce travail-là, pour précision, on a vraiment regardé tous les organes, je veux dire des yeux jusqu'à au cœur, en passant par, bien sûr, tous les organes par rapport au cancer aussi, parce que malheureusement, ça peut toucher tous les organes. Donc vraiment, ça a été un travail très complet sur toute la santé humaine, même la santé mentale, qui est très importante. Et donc là, en fait, surtout, ce qu'on s'est vraiment rendu compte, c'est ce qu'on a pointé dans ce rapport, c'est le manque d'études sur les populations végétariennes et véganes. Pourquoi je sais pas si je peux en dire deux mots maintenant. C'est d'une part parce que c'est des régimes qui sont peu fréquents dans la population, notamment française, moins de 3%, jusqu'à 5% selon certaines enquêtes, mais voilà, on voit que c'est faible. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des régimes intéressants, puisque justement dans cette expertise, on a vu qu'il y avait des effets protecteurs, et à la fois, quand c'est des régimes un peu trop exclusifs, véganes, qui ne sont pas forcément équilibrés, il pourrait y avoir des effets délétères. Et j'emploie bien le conditionnel, parce qu'on manque vraiment d'études, c'est ce qu'a révélé cette expertise. On a besoin de renforcer la recherche vers ces régimes, autour de ces régimes, puisque donc il y a quand même des milliers de personnes qui les suivent et qu'il faut qu'on ait des informations. Et en plus, ces régimes ont un intérêt pour le régime végétarien, nutritionnel, quand il est bien équilibré, même s'il y a des limites qui ont été pointées par l'ANSES, comme le fait que pour les oméga-3, certains oméga-3 qui sont beaucoup dans le poisson, par exemple, on ne va du coup pas avoir d'apport et ça va être compliqué d'un point de vue nutritionnel. Mais parce que ces régimes aussi, là je prends ma casquette de chercheur sur la durabilité alimentaire, ont aussi un grand intérêt pour la durabilité alimentaire, puisque, ces régimes-là sont associés à des diminutions des émissions de gaz à effet de serre, par exemple, dans de nombreuses méta-analyses. Donc il y a aussi un enjeu aussi sur la transition agroécologique avec ces régimes.
Ok. Vous êtes effectivement allé un petit peu au-delà de mes questions.
J'ai un peu débordé, mais je trouvais ça important de le mentionner.
Non, pas du tout, c'est très bien, mais je me demandais justement s'il y avait des études préliminaires qui avaient été menées avant ou si c'était une première en France, a fortiori.
C'est vrai, enfin, un rapport de ce type-là fait par une agence nationale comme l'ANSES, c'est vraiment la première fois. Donc c'est ça, et c'est vraiment un pas très important justement dans l'étude de nouveaux comportements un peu alternatifs pour aller vers cette transition alimentaire durable. On sait bien que le régime végétarien ne va pas pouvoir être adopté, et encore pire pour le régime vegan parce qu'il est encore plus restrictif, par l'ensemble de la population française avec une baguette magique. On ne pourra pas convertir entre guillemets les gens parce que ça demande, surtout pour certaines populations, des adaptations déjà culinaires, etc., majeures. Et en plus, même après, pour certaines populations, comme par exemple les personnes âgées qui ont des problèmes de nutrition, on ne va pas leur dire de devenir vegan si elles n'ont pas envie. Ça paraît logique, mais bon, c'est bien de le rappeler. Voilà, on manque, encore une fois, l'ANSES a vu qu'il y avait des choses sur lesquelles on n'était pas sûr. La santé osseuse, par exemple, est un bémol autour de ces régimes, puisqu'on a moins d'apport en calcium, en vitamine D, qui sont deux nutriments importants pour cette santé. Et donc, du coup, il y a vraiment, on va dire que c'est une première pierre et que du coup maintenant on espère que d'autres autorités, d'autres agences vont s'en saisir et vont développer la prochaine étape, c'est de faire des recommandations vraiment pour le grand public. Ça, c'est un rapport technique. Maintenant, on a besoin de traduire ces recommandations techniques en messages que la population va pouvoir comprendre.
Oui, justement, c'est ce que je me demandais, c'est s'il y avait un travail de vulgarisation qui allait être fait à court terme, ou si c'était un but mais que c'était pas forcément prévu pour le moment.
Tout à fait, c'est vraiment l'étape suivante. Il y a plusieurs agences, dont Santé publique France, on l'espère, qui devraient s'emparer de ce rapport pour maintenant produire des messages comme ceux que vous voyez des fois sur le site internet mangerbouger.fr, par exemple. Pour l'instant, il y a une rubrique très succincte sur les régimes végétariens. Et normalement, il est prévu. Après, voilà, je ne travaille pas à Santé publique France et je n'ai pas de contrôle sur leurs travaux. Mais en tout cas, on a des discussions avec eux, même moi en tant que chercheur. Et ils sont tout à fait enclins à développer justement des recommandations plus facile à comprendre pour le grand public à partir de ce qui a été présenté dans ce rapport.
Ok. Pour ce qui est des bienfaits du végétarisme, est-ce que, par exemple, ça peut aider par rapport à des risques cardiovasculaires ou autres maladies ? On s'en est parlé un peu juste avant.
Pour les maladies cardiovasculaires, nous, c'était moins évident dans le rapport, mais on voyait des effets protecteurs dans certaines études. Et en fait, là, je reprends ma casquette, encore une fois, de chercheur cette fois, parce que c'est un de mes sujets de recherche, les liens entre profil alimentaire végétalisé et maladies cardiovasculaires. Et en fait, on voit de plus en plus qu'il y a des personnes qui se tournent vers des régimes très végétalisés, sans forcément être végétarien, des personnes qui, très végétalisées, pardon, et qui finalement ne sont pas équilibrées sur le plan nutritionnel. Par exemple, on peut manger des burgers, frites, coca, bonbons, etc., 100% végétaux. Et on sait bien que cette alimentation-là ne va pas être une alimentation équilibrée, qui donc il y a des études qui montrent que les régimes végétariens, la relation entre des régimes du coup déséquilibrés végétariens et la santé cardiovasculaire ne serait pas si claire que ça, voire même il pourrait y avoir les mêmes problèmes finalement qu'un régime alimentaire carné avec de la viande déséquilibrée, quoi.
Ouais, c'est pas le même, ouais. C'est le seul facteur.
Vous restez avec nous, Benjamin Less. On continue de parler du rapport de l'ANSES sur le régime végétarien après une petite pause musicale. On écoute tout de suite Galbi de Léna.
Qui va venir me dire qui je suis? Après tout le temps que j'ai mis à me trouver, y'a Galbine Starfet Big. Le vide autour de moi, j'ai besoin de respirer. Un peu trop sérieuse dans mes chansons, besoin de sourire et de dire merci. Merci. En concert, je me sens à la maison, Gaël Estrani, c'est ça d'être en vie. Fuck, un facho tous les jours. Dada me dit que des vieilles du quartier la regardent mal. On m'a éduqué dans l'amour, mais papa met un middle à celui qui me parle mal. Moi, je suis trop fucked up, j'ai arrêté le pilon et la clope. Une princesse que dans ma chambre. Fais peur aux garçons, m'en fous de la leçon. Est-ce que le monde je veux le manger? Mes dents ont-elles été assez aiguisées? Bien sûr que oui, je fais de la boxe thaï, gère mes attaques en badosaï. Et je m'accroche au même rêve que j'avais quand j'étais môme, mais que déjà je savais. Et moi, tous mes amis connaissent les paroles quand mon tour arrive. Je me suis affaire, ministre, mon sous mon lit viennent de la vraie vie. J'ai pris tellement de temps à mes mecs, maintenant pour mon entourage, il va à donner. J'ai surmonté les épreuves que mon cerveau a bâti sans les mettre dans un doré.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, c'était Léna avec son titre Galbi. Nous sommes toujours en compagnie de Benjamin Less qui nous éclaire sur le dernier rapport de l'ANSES sur le régime végétarien.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Benjamin, j'avais une dernière question pour ce qui est des recommandations un petit peu concrètes. C'était quid du végétarisme pour les sportifs? Est-ce que c'est un régime alimentaire qui est adapté? Est-ce que ça faisait partie des facteurs qui étaient pris en compte dans l'étude?
C'est vrai que pour la population sportive, on n'a pas vraiment trouvé d'études qui rencontraient les critères, encore une fois, de qualité scientifique qui étaient émis par le groupe de travail. Et c'est vrai qu'il y a quelques études dans la littérature, et d'ailleurs, je crois qu'elles sont référencées dans des documentaires, notamment les sportifs véganes, etc. Mais c'est vraiment des études encore un peu isolées, avec des petits nombres de sujets, parce qu'en fait, c'est très rare déjà de trouver des personnes végétariennes, et en plus, qui font des sports de haut niveau, et ensuite les inclure dans une étude. enfin ça demande quand même un travail de recrutement intense et qui malheureusement du coup limite le fait aussi qu'on ait peu d'études, enfin engendre le fait qu'on ait peu d'études sur ces populations. Donc on manque encore une fois de recul sur ces questions-là. Ouais.
Au-delà du plan purement nutritif, du coup, il y a aussi un aspect un peu éthique et environnemental qui est important en rapport avec la consommation de viande. On sait que, en tout cas, moi, je vois que la plupart des végétariens que je connais arrêtent de manger de la viande pour des raisons plutôt éthiques. Est-ce que c'est une piste que vous avez aussi dans le rapport ?
Ouais, en fait, on n'a pas été sur la question donc, des motivations dans ce rapport. C'était pas le sujet principal.
Oui, c'était surtout
mais par contre, moi, à titre personnel, je m'intéresse beaucoup aux motivations des personnes végétariennes, mais aussi des personnes qui diminuent leur consommation de viande sans forcément être végétariennes. Parce qu'il y en a beaucoup en France aujourd'hui, maintenant, c'est de plus en plus, c'est plus la moitié de la population française selon certaines enquêtes. Et du coup, l'éthique et le bien-être et la vie animale est bien sûr la première motivation historique même des personnes végétariennes et véganes. Les premiers mouvements même autour du végétarisme, c'était autour de ça. Mais il y a d'autres motivations, il y a aussi la santé. Il y a un mouvement en France qui s'appelle le végétalisme, avec un L, et pas véganisme, qui lui était vraiment basé sur être végétalien. Donc vegan aujourd'hui on dirait, mais pour la santé quoi. C'était pas pour, enfin oui il y avait l'éthique bien sûr, hein, mais c'était la numéro un, c'était pour la santé. Et ensuite nous ce qu'on voit dans les populations végétariennes qu'on étudie dans l'étude Nutrinet Santé, donc qui est la cohorte sur laquelle je travaille, donc c'est une cohorte de volontaires en France. On a beaucoup de personnes végétariennes et véganes dans cette cohorte. On a la chance d'avoir, et on les remercie d'ailleurs, des volontaires qui nous donnent beaucoup d'informations. Et donc dans ces personnes là on voit que la motivation sur le bien-être animal est très présente, mais aussi d'autres motivations, notamment la préservation de l'environnement est en train d'émerger, tout comme d'ailleurs chez les personnes qui diminuent la viande sans être des personnes végétariennes. On voit que de plus en plus de personnes, comme on entend, je pense, de plus en plus parler des crises climatiques, de l'impact de notre système alimentaire sur l'environnement et le changement climatique, les gens sont de plus en plus sensibilisés, et on voit que c'est une motivation qui devient aussi forte pour adopter des régimes moins carnés, on va dire, que même la santé chez des personnes non végétariennes. Et cette motivation existe aussi chez les personnes végétariennes. Et maintenant, même, il y a des personnes qui sont végétariennes uniquement presque, enfin, en numéro un pour l'environnement, en lien avec aussi l'éthique.
Selon vous, c'est quoi les plus grands freins à adopter un mode de vie, enfin, un régime végétarien, en tout cas, pour les personnes qui sont un peu plus réticentes ?
C'est vrai qu'il y a beaucoup de... Nous, on étudie aussi les freins, alors pas forcément pour l'instant directement sur le régime végétarien, mais déjà sur le fait juste de diminuer la consommation de viande, ce qui concerne beaucoup plus de monde que les personnes végétariennes, encore une fois. Et on voit bien que parmi les freins, en fait, il y a des questions autour du genre, notamment, puisqu'on voit que les hommes déclarent beaucoup moins souvent que les femmes diminuent leur consommation de viande. Donc là, ça pose une vraie question autour des représentations tout simplement du genre masculin et de la force et plein de choses qui sont autour de ça. On voit qu'il y a aussi... des freins parce que les gens ne savent pas diversifier, ne savent pas comment diversifier, aller chercher d'autres sources, par exemple végétales avec des protéines. Donc ça, c'est un vrai travail qu'il y a à faire encore en santé publique. Et ce qu'on évoquait tout à l'heure, les recommandations, le fait de guider les gens, et aussi le fait de, pour moi, un des freins aussi justement, parce qu'on manque, voilà, les gens manquent d'informations, et aussi d'avoir des portails d'informations officiels avec des informations scientifiques valides, c'est quelque chose qui manque. On a beaucoup, beaucoup maintenant de personnes sur les réseaux sociaux qui s'emparent de ces sujets, avec beaucoup d'inexactitudes, beaucoup de fausses informations, de fake news autour de la nutrition qui sont diffusées. L'INSERM, Santé publique France, essaye de plus en plus de se rendre présent et de pallier à ce manque d'infos. Mais il y a encore besoin de bien informer les gens aussi. En fait, c'est ça pour moi un des freins, c'est le manque d'informations aussi vers le public autour de cette possibilité de rééquilibrer sa consommation viande et produits animaux. Pourquoi pas aller vers des régimes végétariens quand on suit bien sûr les repères et les recommandations. Et du coup, le manque d'informations pour moi est un vrai frein aujourd'hui, et le fait qu'on ait ce qu'on appelle une cacophonie, donc des informations qui arrivent dans tous les sens et qui vont dans tous les sens aussi en termes de messages.
Toujours dans le sujet des freins, depuis le 1er novembre 2019, dans les cantines scolaires, on doit proposer au moins une fois par semaine un repas végétarien. Et pourtant, il y a à peu près 38% qui ne le proposent pas actuellement. Donc, est-ce que pour vous, il y a un manque à gagner au sujet à la fois de l'impact culturel du végétarisme / véganisme et aussi pour l'impact environnemental de la consommation de viande, du coup, qui est effectivement un gros thème.
C'est clair que le levier en France de la restauration collective, hein, de manière très large, et incluant bien sûr les cantines, je pense aussi au Crous, vous êtes une radio étudiante, il y a un levier énorme qui qui a commencé à être actionné, mais qu'on pourrait bien renforcer si on mettait des moyens politiques et qu'on avait des politiques publiques encore plus incitantes. Et il y a des pays comme les pays nordiques, par exemple, ont mis 100% des repas sans viande dans leur cantine. Certains pays nordiques, comme je pense, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est la Suède notamment. Et du coup, ou plutôt le Danemark, je pense. Bref, en tout cas, un de ces pays, désolé pour l'imprécision, mais vous voyez, il y a des pays qui sont allés plus loin en gros, et que nous, on est encore, bon, on commence à se mettre sur ça, mais je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'efforts à faire au niveau de la restauration collective. C'est vraiment quelque chose sur lequel beaucoup de collègues à l'INRAE travaillent en ce moment.
Et justement, une de mes dernières questions, ça portait plutôt sur, oui, effectivement, même si l'étude, c'est plus sur les effets des régimes végétariens sur la santé. Est-ce que vous, à titre personnel, vous auriez des idées de pistes qui permettraient de faire un peu bouger les lignes dans une culture française qui est peut-être un peu carnée, très « ma France, mon pinard, ma charcute », entre guillemets?
Bah justement, on est un pays qui adore manger, on a le plaisir gastronomique vraiment au centre de notre culture globale, pas que culinaire d'ailleurs, c'est vraiment partout quoi. Je veux dire, même les magazines qui n'ont rien à voir avec le sujet, souvent vous allez trouver un truc qui a un lien avec la nourriture et la bouffe. Donc je pense qu'on a vraiment intérêt à retravailler, notamment avec la communication, le marketing, tous les outils qu'on a qui ont servi à développer des choses comme la viande, à les réorienter vers aussi d'autres produits. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter complètement de promouvoir certains produits animaux, parce qu'il y en a qui sont très bons pour la santé quand on les mange de manière raisonnée, mais aussi pour les personnes qui n'ont pas envie de les manger, ils peuvent aller trouver d'autres sources, c'est ce qui est dans le rapport de l'ANSES. Et du coup, l'idée, c'est vraiment maintenant comment on fait pour remettre aussi, réconcilier le plaisir, de dire qu'on peut manger végétal en se faisant plaisir. Et ça, c'est un truc qui est tout à fait dont plein de chefs se sont déjà emparés. De plus en plus, c'est en train de se diffuser. Il y a des projets dans le nord de la France pour justement former par exemple les chefs cuisiniers dans les cantines pour faire des plats sans viande, mais qui soient vraiment bons et qui ne soient pas juste des fois des trucs déjà tout prêt ou en soi qui soit pas toujours ils sont pas toujours hyper bons, ou même de bien cuisiner les légumes tout simplement quoi, enfin la base quoi d'une alimentation équilibrée.
Ouais, totalement. Mais c'est vrai qu'on voit aussi beaucoup plus d'alternatives végétales, même de la part de marques de grande distribution, type Fleury Michon, ce genre de trucs.
Ouais, et donc l'alternative, il ne faut pas non plus faire une généralité, parce que maintenant, on a recensé, on a fait une étude sur ça, qui est toujours en cours là, hein, qui n'est pas terminée. On a recensé plus de 3500 produits maintenant qui remplacent tous les produits animaux, donc viande, produits laitiers, etc. En version végétale, maintenant, il y a plus de 3500 produits. Donc on ne peut pas dire qu'ils sont tous forcément mauvais. Il y en a qui sont même bons au goût. J'en ai goûté à petite personnelle et je trouve qu'il y en a qui sont bons. Et après, voilà, sur le plan nutritionnel, énorme diversité. D'où l'intérêt aussi de regarder des outils comme Nutri-Score pour aider à faire des choix alimentaires sains. Et du coup, il y a vraiment, je pense qu'on, voilà, les analogues peuvent être une piste, mais voilà, encore une fois, faire attention et il y a de tout dans ces produits-là.
Merci beaucoup, Benjamin Alès. J'ai peut-être un dernier mot pour vous avant que...
Je voudrais juste dire, si vos auditoristes sont intéressés par les questions nutrition-santé, et surtout si c'est des étudiantes et des étudiants motivés pour faire bouger les choses, notamment au niveau national, on a une étude donc, qui s'appelle l'étude Coconut. C'est étude au singulier, _ coconut, comme noix de coco en anglais, C-O-C-O-N-U-T. Et donc, vous pouvez vous inscrire, participer à l'étude. C'est des questionnaires qui sont assez simples, qui ont été conçus pour les étudiantes et les étudiants. C'est une étude participative et l'idée, c'est de créer un réseau national justement après de campus avec les étudiants qui ont participé à l'étude pour faire bouger les choses. Nous par exemple sur les campus dans lesquels on est dans le 93, on essaie de faire bouger l'offre de la restauration du Crous par exemple grâce à la participation des étudiants. Donc c'est ma collègue Alice Bellicha qui est en charge de tout ce projet. Donc voilà, si jamais vous avez envie de participer à cette étude, l'étude Coconut, étude _ coconut sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir et à vous inscrire à l'étude.
Merci beaucoup Benjamin Alès. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste à l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'alimentation et l'environnement.
Merci à vous deux. C'est l'heure maintenant de la chronique info insolite.
La matinale de 19h.
Salut Fabien, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Bonjour. Eh bien, moi, je vais vous donc des infos insolites et comme tu as dit. Et on va commencer tout de suite avec une histoire de Kevin. Si vous vous appelez Kevin et que vous en avez marre que la terre entière se moque de votre prénom à longueur de temps, c'est votre jour. Lundi 17 mars, le plus grand rassemblement de Kevin jamais organisé s'est tenu devant le Forum des Images en plein cœur de la capitale. Ce rassemblement, pas comme les autres, a lieu à cette date tout simplement pour marquer la sortie sur grand écran du documentaire Sauvons les Kevin en présence du réalisateur Kevin Fafournou. Oui, il va y avoir beaucoup de Kevin dans cette chronique. Le film d'1h05 sera ensuite diffusé sur Paris Première le samedi 22 mars à 22h55 pour celles et ceux qui n'auraient pas pu assister à l'événement. Le documentaire mettra en scène tout un tas de Kevin aux expériences et horizons différents. Un Kevin médecin, un Kevin avocat, des Kevin vieux, des Kevin jeunes, un Kevin qui a même fini par changer de prénom. Tous partageront leur expérience et raconteront comment ils vivent avec ce même prénom. Le tout dans un univers pop et décalé en référence au code visuel des années 90, période phare des Kevin évidemment. Et puis, un bel exemple de longévité, c'est en Italie, un coureur a ajouté un nouveau marathon à son palmarès. Sa particularité, il a quand même 92 ans. Dimanche à Rome, Antonio Rao a bouclé les 42 km en réussissant même à faire mieux que l'année dernière. Le nonagénaire a passé la ligne d'arrivée en 6h44 et 7 secondes, contre 6h54 et 23 secondes en 2024. En 2023, il avait battu le record du monde des plus de 90 ans en réalisant un temps de 6h14 minutes 44 secondes, déjà dans les rues de la capitale italienne. J'y ai arrivé. Et l'homme, il court quand même depuis 80 ans. Je ne pense pas qu'il y en a beaucoup qui puissent en dire autant. Et puis, le célèbre humour british a encore frappé. Depuis plusieurs semaines, une rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre sur TikTok. Chaque jour à 15h, une alarme retentirait dans chaque recoin du Royaume-Uni pour appeler aux citoyens de boire une tasse de thé. Certains Britanniques ont poussé loin le canular, allant jusqu'à assurer que les personnes qui ne respectent pas cette coutume risquent une amende ou une peine de prison. Certains ont même inventé l'application Tea Alarm. Face aux commentaires éberlués de nombreuses personnes naïves, en particulier des Américains, certains Britanniques ont rehaussé le cran, le niveau de la blague. Mon voisin s'est plaint car il n'aimait que le café, raconte une Anglaise sur TikTok. Le lendemain, il a mystérieusement disparu. Je dois aller faire un stage de sensibilisation car j'ai raté l'heure du thé, dit un autre. Le canular apparaît d'autant plus crédible que plusieurs organisations et entreprises officielles se sont prêtées au jeu. Le groupe Aldi UK, par exemple, filmait l'un de ses employés en train de se faire un thé à 15h, tandis que British Airways a garanti qu'elle servait toujours du thé à 15h sur l'ensemble de ses vols. Même le gouvernement britannique a participé en précisant sur son compte TikTok que des changements vont être opérés sur la Tea Alarm. Et enfin, pour terminer, quand un père de famille norvégien a rentré son nom sur ChatGPT, il a été présenté comme un criminel reconnu coupable du meurtre de deux de ses enfants et qui a tenté de tuer son troisième fils. Ce mensonge autour d'un double infanticide a motivé l'association de protection de la vie privée Neub à porter plainte contre OpenAI. Cette dernière s'inquiète du fait que la fake news sur le père de famille a été agrémentée par des données personnelles clairement identifiables, comme le nombre et le nom de ses enfants, ou sa ville d'origine. Le fait que ChatGPT ait créé un faux meurtre et un emprisonnement d'une personne tout en incluant des éléments réels sur sa vie personnelle va à l'encontre des exigences et des exactitudes des données du règlement général sur la protection des données. Et l'erreur n'a pas pu être facilement corrigée, c'est bien ça le problème. Le problème a quand même été réglé en surface, une nouvelle mise à jour prévoit que ChatGPT utilise maintenant Internet pour trouver des informations sur les gens quand on lui demande qui ils sont. Une rectification qui ne satisfait ni l'association de protection de la vie privée, ni Harv Holman, qui voudrait s'assurer que les fausses informations sur lui ne sont pas simplement bloquées sur ChatGPT, mais ont bien été supprimées de sa base interne.
Merci beaucoup Fabien pour toutes ces infos insolites. Nous sommes en direct jusqu'à 20h sur le 93.9 et c'est l'heure de la dernière pause musicale.
Yeah.
c'était Life Ain't Fair de Bald Mice. Et c'est maintenant l'heure du Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Le Zoom de ce soir vous est présenté par Éléonore. Salut Éléonore.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Nous avons le plaisir de recevoir dans le Zoom d'aujourd'hui Arnaud Bertina. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes écrivain, romancier, collaborateur, co-animateur entre littérature et philosophie, de la revue Esprit à vos nombreuses interventions sur France Culture, de la conversation littéraire au Book Club. Et vous êtes ici pour nous parler du festival littéraire Hors Limite, dont vous êtes le conseiller. Oui. Alors, c'est un festival qui est porté depuis 10 ans par l'association Bibliothèque en Seine-Saint-Denis et il couvre de façon annuelle 30 villes, dont le 93 fait partie. Il diffuse et transmet l'importance des manifestations littéraires et notamment contemporaines à travers des organisations de lecture, ateliers d'écriture, rencontres et projections. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus pour sa soirée d'inauguration pardon, qui commence dès demain soir et qui se terminera le 5 avril.
Oui, volontiers. D'abord, une petite précision. Le festival est strictement un festival de la Seine-Saint-Denis. C'est l'association des bibliothèques en Seine-Saint-Denis qui l'organise. Et donc, cette centaine de rencontres autour de la littérature contemporaine ont lieu strictement dans les bibliothèques de Seine-Saint-Denis. Et ce n'est pas du tout anodin. C'est important de le souligner parce que la Seine-Saint-Denis, on le sait, c'est un département, un territoire qui est incroyablement complexe sur le plan culturel. Sur la seule ville de Saint-Denis ou de Bobigny, il y a plus d'une centaine de pays qui sont représentés par les habitants. Donc, parler de la culture littéraire qui s'écrit en français aujourd'hui ou de la scène vivante qui se donne en français, ça n'est pas évident. Il faut aller chercher des gens qui parfois ne sont pas francophones ou qui le sont de fraîche date. Donc, il y a un enjeu comme ça, qui est un enjeu généreux, mais qui est aussi un drôle d'enjeu pour faire que la littérature française continue d'être vivante, quoi. Qu'elle ne parle pas simplement aux gens qui sont français depuis 5 générations, mais au contraire, qu'elle se montre très inclusive, très accueillante. Vous m'interrogez aussi sur la soirée de lancement qui a lieu demain à Romainville, à la bibliothèque de Romain Rolland de Romainville. C'est une soirée de lancement avec un auteur invité qui s'appelle Sylvain Prudhomme, qui vient de publier un livre qui s'appelle Coyote aux éditions de Minuit. Et il est avec, si je ne me trompe pas, avec Seb Martel à la musique. Et ensemble, en fait, ils vont déployer un petit peu ce livre qui s'intitule Coyote. Et ce livre, c'est à l'origine un reportage qui a été fait par Sylvain Prudhomme lors du premier mandat de Donald Trump aux États-Unis, lorsque Donald Trump, avec une obsession, c'était de construire un mur de séparation entre les États-Unis et le Mexique. Et donc, Sylvain Prudhomme a longé cette frontière entre les États-Unis et le Mexique à la rencontre des gens qui la passent tous les jours pour les faire parler, pour savoir quel est leur ressenti par rapport à ce mur, par rapport à cette séparation, par rapport au racisme institutionnel aux États-Unis.
J'informe les auditeurs et auditrices qui nous écoutent que la soirée d'inauguration qui se tiendra demain à 20h est complète pour les réservations, mais qu'en revanche, tout le festival est gratuit et sur site, dans la limite des places disponibles. Et donc, il faut s'y rendre d'urgence, sans passer par le
site. Oui, la gratuité, c'est une chose. D'abord, toutes les médiathèques et toutes les bibliothèques sont en accès libre tout le temps. Parfois, pour emprunter les livres, peut-être dans certaines villes, il y a des tout petits abonnements, mais qui sont vraiment sur des sommes assez dérisoires, de façon à permettre, l'accès à la littérature, aux sciences sociales, etc., au plus grand nombre, de manière à ce que la question du coût ne soit jamais un obstacle. Mais ça, c'est un très très vieux militantisme des bibliothèques. Les quelques fois où les pouvoirs politiques ont tenté de mettre un accès payant, il y a tout de suite eu des levées de boucliers. Les bibliothécaires, les médiathécaires sont très très fidèles à cette idée-là que les bibliothèques doivent rester à tout prix des lieux de vie, des lieux accueillants.
Vous êtes co-conseiller littéraire avec Sophie Joubert pour ce festival. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ?
Oui.
Et qu'est-ce qui vous a amené à cela ? Qui peut prétendre à ce poste ?
Alors, il n'y a pas de parcours universitaire ou scolaire pour arriver à ce poste. Alors, on est conseiller littéraire et en fait, vous savez, ce mot, il a un sens très précis. On aurait pu être appelés tous les deux programmateurs, programmatrices, mais conseiller littéraire, ça veut dire tout à fait autre chose. Si on avait été programmateur, on aurait imposé aux équipes des bibliothèques une programmation. On leur aurait dit, voilà, telle médiathèque va recevoir Kautrarchi, etc. Mais quand on fait ça, c'est une programmation qui tombe d'en haut, c'est une programmation qui est très hors sol, c'est-à-dire que les équipes des médiathèques ensuite ne savent absolument pas s'ils vont réussir à défendre cet ouvrage-là et à faire venir du monde pour la rencontre. À l'inverse, nous on essaye donc d'être conseiller littéraire, c'est-à-dire on essaye d'accompagner les équipes de manière à faire que les envies qu'elles peuvent avoir, quand elles sont un petit peu floues, on va les aider à les préciser. C'est-à-dire, par exemple, s'ils disent on voudrait une rencontre autour de l'accueil des migrants aujourd'hui en Europe, nous tout d'un coup on leur sort 2-3 titres de la rentrée littéraire ou de l'année en leur présentant ces 3 titres, en leur disant lisez-les et puis vous nous direz si ça vous emballe et si vous avez envie de recevoir cet auteur ou cette autrice. Donc voilà, c'est très important parce qu'en fait, c'est une affaire de respect. Si on affiche comme ça un désir de respect de la population de la Seine-Saint-Denis, il faut déjà que ça en passe par le respect des équipes des médiathèques. Si on leur imposait une programmation, on ne les respecterait pas. Là, au contraire, on essaye de le construire avec eux de manière à ce que ce soit très pertinent localement. Et puis ensuite, eux, ils sont en mesure aussi de respecter et de mieux écouter les usagers des médiathèques. Je vais vous donner un exemple très simple pour comment faire pour qu'une programmation ne soit pas hors sol. Alors malheureusement, là, je vais être un petit peu flou. C'est un exemple d'il y a 2 ans et j'ai un peu oublié les termes de cet exemple. Mais un acteur tamoul, si je ne dis pas de bêtises, qui a joué dans l'avant-dernier film d'Audiard, est aussi romancier. Or, il se trouve que dans une des villes de Seine-Saint-Denis, il y a justement une grande communauté importante. Donc, ils l'ont invité. La rencontre ne s'est pas passée en français. Mais résultat, ces gens, pour la première fois, se sentaient accueillis dans ce grand lieu de la culture française qu'est la médiathèque, la bibliothèque. Donc il y a quelque chose d'hyper heureux là-dedans. Eux, ils étaient très heureux, ils se sentaient très respectés d'être invités là. Et tout d'un coup, ce lieu devenait un lieu de plus pour eux, possible dans leur ville.
Justement, pour rebondir à ça et créer un lieu qui puisse ouvrir et enrichir la diversité et de permettre à tous de se sentir représentés et donc d'incarner par la suite cette littérature contemporaine. Vous avez dit dans une ancienne interview, la vérité littéraire est de toute façon différente de la vérité et des faits et elle se situe ailleurs. Où est-ce qu'elle se situe si c'est un dit lieu? Est-ce que c'est métaphysique ou est-ce que c'est ce qu'on en fait collectivement?
Vous avez raison, c'est ce qu'on en fait collectivement, mais peut-être qu'avant ça et avant d'être métaphysique, c'est d'abord aussi peut-être une question d'émotion. C'est-à-dire que quand on est très ému par une scène que l'on vient de lire dans un livre de fiction, il y a quand même de fortes chances, puisqu'il y a cette émotion, que cette scène comporte une part de vérité, quelque chose qui n'a pas à voir avec la vérité des faits, puisque justement la littérature... est souvent du côté de la fiction, c'est-à-dire souvent du côté de l'imaginaire. Elle construit quelque chose qui n'a pas obligatoirement eu lieu. Mais si ça vient créer de l'émotion, c'est bien que ça a percuté quelque chose, c'est bien que quelque chose est ramené du fond de l'eau jusqu'à la surface. Et c'est ça qu'il faut arriver ensuite. C'est à partir de ça qu'on peut construire du commun. Si vous avez été ému par la même scène que moi, on peut en parler. Ou si au contraire, vous n'avez pas été ému, on peut en parler aussi. En tout cas, ça crée du commun. Et ce commun, c'est ce qu'on a en partage. C'est ce qu'on va essayer de... c'est à partir de ça qu'on va essayer de construire ensemble quelque chose qui est notre quotidien, qui est notre contemporanéité.
Et justement, qu'est-ce que permet la littérature contemporaine et donc le festival Hors Limite dans ces départements délaissés? De créer un collectif et un espace commun.
Alors, ce sont des départements qui sont délaissés au sens où il y a une...
Économiquement, pardon.
À certains endroits, voilà, il peut y avoir une grande misère. Ce sont aussi des départements dont les populations sont violentées, étant donné le racisme invraisemblable de la société française actuellement. Or, en Seine-Saint-Denis, donc, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas français de souche et qui donc se sentent en permanence agressés dès qu'ils allument la télé, quand ils entendent la qualité du débat public français. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer ça, c'est-à-dire de se dire, ah tiens, à un endroit où on nous respecte. Et pas seulement on nous respecte parce qu'on a invité un écrivain tamoul, on nous respecte aussi parce que ce qu'on nous propose dans les rencontres, c'est pas de l'eau tiède. Ce sont des vraies rencontres, c'est-à-dire avec des fois une littérature un peu exigeante, une littérature qui ne va pas être du roman facile à lire obligatoirement. Il y en aura peut-être, mais il n'y aura pas que ça. Il y aura aussi des poètes qui font des expériences, il y aura aussi des romanciers qui essayent de réinventer l'art du roman et qui bousculent les codes, etc., qui donc posent des problèmes de lecture. Et en fait, on pourrait dire, bah, donc non, je ne vais pas l'inviter, il pose des problèmes de lecture. Mais si, en fait, c'est le meilleur moyen de montrer aux gens qu'on les respecte, c'est de dire, bah, si, vous êtes capable de lire ça. Et voire même, je suis persuadé, moi, que c'est un trésor, et donc il n'y a pas de raison de vous priver de ce trésor-là. Je ne vais pas le garder pour moi. Je vais au contraire essayer de le mettre en circulation et je vais tout faire pédagogiquement pour que vous compreniez à quel point c'est beau. Oui, il va falloir en parler beaucoup. Oui, il va falloir se revoir dans 6 mois quand vous l'aurez relu, etc. etc. Mais on y croit. Et ça, c'est un grand signe de respect. D'amener aux gens une littérature un peu exigeante. C'est ce qui est contenu dans l'idée de hors limite. C'est de ne pas en rester au tout venant de la production littéraire, mais aussi de montrer justement quelles sont les expériences qui se passent un petit peu dans les marges. Quand la phrase est déconstruite, quand l'art du récit est déconstruit, quand le poème n'est pas simplement en alexandrin, mais au contraire joue avec la typographie, joue avec l'espace, joue aussi avec les niveaux de langue, etc. etc.
Et justement, comment le festival donc Hors Limite s'est adapté à ces différentes littératures pour qu'elles trouvent leur propre lecteur entre différentes générations et différentes diversités culturelles, économiques et sociales.
En fait, ça se fait assez naturellement parce que comme on est toute l'année en contact avec les équipes des médiathèques, ils nous disent justement ce qu'ils ont mis en lecture, ils nous disent ce qu'ils ont envie de lire, et nous, on leur fait des propositions. Et tout ça finit par donner une programmation à la fin de l'année. On organise aussi toute l'année des espèces d'ateliers, des moments de formation sur des points précis de la littérature, par exemple sur la poésie narrative aujourd'hui, ou alors par exemple sur le roman en vers aujourd'hui, parce qu'ils s'en publient beaucoup en français. Et donc, dans ces moments-là, on passe 3-4 heures ensemble à lire ensemble ces livres-là. Et ensuite, les bibliothécaires se sentent ragaillardis et revont vers leurs usagers en ayant des nouvelles cases ouvertes dans la tête, des nouvelles curiosités, etc. Il y a aussi des temps de formation pour que ces mêmes bibliothécaires osent prendre en charge l'animation des rencontres, que ce soit pas un journaliste littéraire parisien qui vienne animer la rencontre, mais que ce soit au contraire quelqu'un de l'équipe avec lequel les usagers ont l'habitude de discuter tout au long de l'année. Et là aussi ça change tout, parce que ça fait que vous arrivez pour assister à une rencontre littéraire et vous retrouvez la personne que vous aimez bien sur scène, et donc vous sentez autorisé à prendre la parole ensuite dans la rencontre. Et ça fait que tout d'un coup ça devient un vrai moment. C'est pas un truc un peu glaçant, mondain, ça devient un vrai moment.
Merci Éléonore. Excusez-moi.
Oui, pardon. Est-ce que c'est possible peut-être de faire une dernière question?
Oui, bien sûr.
Au sujet de la jeunesse, on dit souvent que c'est très compliqué d'investir pour la jeunesse, la culture et surtout la littérature. On sait qu'il y a le festival littéraire Partir en livre qui arrive cet été. Quel est votre ressenti face aux récentes coupes budgétaires qui concerne la culture, et qu'est-ce que ça représente pour vous?
Évidemment,
en
quelques mots, c'est une catastrophe, ces coupes budgétaires, surtout sur un territoire, encore une fois, la Seine-Saint-Denis, qui est déjà un territoire justement maltraité sur ce plan-là. Or, il y a beaucoup d'associations, par exemple Banlieue Bleue, qui doivent supporter tout d'un coup des réductions budgétaires qui sont très violentes. C'est un énorme problème. Aujourd'hui, il y avait une manifestation des artistes justement pour essayer de rééquilibrer ça. Ensuite, pour la jeunesse, le Hors Limite n'est pas le festival le plus concerné par la littérature jeunesse. Il y a le Salon du Livre de Montreuil, qui est un salon très très connu en France, et qui fait déjà très très bien cette partie-là du travail. Mais pour autant, effectivement, dans la programmation, on a peut-être une quinzaine de rencontres pour le jeune public, et c'est la même idée, c'est de les respecter en leur apportant des rencontres qui ont vraiment du sens.
Je vous remercie.
Merci beaucoup Éléonore et merci Arnaud Bertina.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes conseiller littéraire du festival Hors Limite. Maintenant, c'est la chronique de Delila.
La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
Rebonsoir Delila. Cette fois, c'est l'heure de ta chronique.
Rebonsoir Simon. Alors, je reviens avec une chronique ultra pointue et actu fraîche, parce que j'ai décidé de vous parler d'une nouvelle d'aujourd'hui. Le ministre de l'économie vient d'annoncer la création d'un fonds de 450 millions d'euros dans lequel nous, Français, on va pouvoir investir. Alors, enfin, Enfin, je vais pouvoir devenir actionnaire des entreprises d'armement françaises. J'espère qu'ils feront comme les événements caritatifs et qu'on aura des concours pour pouvoir nommer des avions. J'ai toujours rêvé d'appeler un Rafale Bill du Big Deal. Non, mais vous vous rendez compte, la chance qu'on a dans ce pays, on passe notre temps à râler. Ouais, au moins, je trouve pas de travail, mes droits au chômage s'épuisent, les biscuits de chez Aldi sont pas bons. Mais merde, on peut donner notre pognon pour aller à la guerre, c'est super, non? Simon, c'est super.
Ouais, je suis d'accord, j'en ai parlé de toute façon. Okay.
Alors, le ministre, il nous dit qu'on pourra investir avec un montant minimum de 500 euros pour du long terme. C'est cool, c'est une espèce de PEL qui peut littéralement péter à tout moment. Bon, évidemment, pas vraiment péter, hein, l'argent est toujours là théoriquement, mais je peux pas empêcher de me dire que peut-être, je m'avance, hein. Avec les plus grandes pincettes du monde, peut-être que faire du bénéf sur la guerre, c'est pas hyper propre. Genre, le capitalisme, c'est pas hashtag good vibes, je suis pas naïve, mais le monde où tu regardes ta bombe tomber sur un QG russe et où tu te dis, voilà, de l'argent bien investi, ça fait un peu bader. Ça reste quand même pire que d'investir en bourse dans une entreprise de pompes funèbres. Sérieux, je me demande à quoi ça ressemblerait une réunion d'actionnaires dans ce cas-là. Alors, sur le Q1, on est un peu sous-staffé, il y a un manque de demande en termes d'assets funéraires. Donc, il va falloir continuer à dynamiser les prospects et diversifier les side business. On peut peut-être commencer à vendre des stylos et des briquets personnalisés à l'effigie des morts et faire une offre budget où c'est la famille qui porte le cercueil. On peut éventuellement s'en parler.
Ouais.
En vrai, moi, je trouve ça dingue, cette volonté de faire des cadeaux aux riches et aux grandes entreprises, au point où tu dis aux Français, genre, franchement, s'il te plaît, c'est trop la galère, donne. Genre, limite, on dirait un scam de site douteux, genre, tu veux faire la guerre dans les oblasts les plus chauds près de chez toi ? Envoie bombe au 88-333. Bombe au 88-333. Service payant, 500 euros plus prix d'un SMS, liste des conditions sur www.donne-tes-thunes-il-faut-qu'on-se-digoule-les-russes.gouv.fr. Bon, après, je comprends, la guerre, ça a l'air de coûter cher, les gros navions, les chars, les soldats fachos qu'on sait qu'ils sont fachos, mais qu'on continue à payer parce que, quand même, ils font de l'excellent travail. Moi, cette excuse, elle me rappelle un pote à moi, un ancien pote à moi, qui était dans la police. Dans son commissariat, il s'est passé un truc grave, un mec en garde à vue qui s'est fait tabasser, l'IGPN est venu, et vous savez, quand l'IGPN vient, il se passe toujours des choses. Parce que qui mieux que la police pour juger la police, hein, y a aucun biais, il n'y a pas de corporatisme entre les deux, donc on a l'abri, quoi. Le collègue en question qui avait été violent, il a été mis à pied quelques jours. Et mon ancien pote, il m'avait sorti, bon ok, il a déboîté la mâchoire d'un type, mais quand même, c'est un bon flic. Administrativement, il est impeccable. Moi, j'avoue qu'à l'époque, cette excuse, elle m'a soufflé. J'imagine le monde parallèle où on dit, bon d'accord, Émile Louis, il a violé et assassiné des gosses, mais je peux pas me passer de lui. Il fait des créneaux comme personne, il n'y en a pas deux comme lui. Bon, tout ça pour dire que si les deux quinquennats Macron vous ont laissé du pognon dans les caisses, vous pouvez investir. Moi, perso, je vais envoyer bombe au 88-333. Bonne semaine tout le monde.
À la guerre comme à la guerre, c'était peut-être le début et la fin de cette émission. Bon, bah, merci beaucoup Delila pour cette chronique. C'est la fin de cette matinale de 19h. Un grand merci à Léonore pour le Zoom du jour, mais aussi à Thomas Yayani pour le Flash Info, ainsi qu'à Fabien pour sa chronique actu. Et bien sûr, encore merci à Delila pour l'interview et sa chronique. Sans oublier de remercier un autre Thomas, Thomas Belalfaoui, à la réalisation. On remercie aussi toute l'équipe de Radio Campus Paris qui a aidé à préparer cette émission. À la présentation, c'était moi-même, Simon B pour les intimes. Merci à vous d'avoir été avec nous et très bonne soirée sur Radio Campus Paris.